penser dans cette mathématique dialectique qu'il a écrit, il a écrit ça dès 55. Cette mathématique dialectique à laquelle il faudra s'habituer. On a parlé la semaine dernière déjà de. On a parlé la semaine dernière du plus et du moins. Je vous ai montré que je peux déduire de l'axiome de Boole que 2x égale 0. Donc, en ce qui concerne le calcul algébrique, 2x égale 0, vous pouvez préférer que j'écrive x plus x égale 0, c'est la même chose. 2x c'est x plus x. Donc il y a une loi additive. Ce produit, c'est la définition la plus simple qu'on peut donner de la multiplication par un nombre. C'est qu'on ajoute un nombre à lui-même plusieurs fois, donc ça fait x plus x, ça fait plus x, x plus x plus x, ça fait 3x. Bon. Et c'est x plus x qui est égal à 0. Et si je soustrais aux deux membres x plus x moins x égale 0 moins x, j'obtiens ici x moins x, ça fait que j'obtiens x plus 0 égale 0 moins x et moins x. Pour finir, je m'aperçois que x est égal à moins x. Hein? Alors, on n'écrit pas le signe plus devant, vous voyez, c'est pourquoi c'est le même principe, c'est une trace de la fonction phallique, ça. C'est un peu lapidaire de ma part de vous dire ça. Mais enfin, vous voyez, comme Mme Imbert dit que le prédicat de vérité, l'indicateur des tautologies, on voit, c'est un parasite. Le plus au début, on ne le met pas, parce qu'on suppose que vous savez qu'il y est et qu'il faut le lire. Vous voyez, la fonction phallique, ça se joue entre plus 3, moins 3. Et 3. Quand on apprend les nombres naturels, les entiers, ce qu'on appelle les entiers naturels, 1, 2, 3, 4, bon, on n'a pas de signe. C'est ce qu'on appelle les entiers naturels. Et quand on introduit des nombres relatifs, positifs et négatifs, bon, je passe sur la manière dont on les introduit, mais c'est assez simple. Ça veut dire que ici, on considère les nombres à partir du 0, 1, 2, etc. Ça, ça s'appelle les entiers naturels. Et ici, on considère qu'il y a des entiers relatifs, parce qu'il y a plus 1 d'un côté et moins 1 de l'autre. Et les choses sont augmentées, sont orientées comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les entiers relatifs. Bon. Et donc, 3, on passe à moins 3 et plus 3. Et dans l'enseignement primaire, on commence à faire ça. Et quand on apprend aux enfants à écrire moins 3 plus 7, c'est la même chose que 7 moins 3, parce que c'est commutatif, et ça fait 4, parce qu'ici ça fait 4. Donc ça va encore. Et vous voyez qu'ici, c'est le plus 7, il est là. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à un moment donné, on apprend qu'on n'écrit plus plus 7 quand c'est en tête, parce que c'est supposé. Si on ne met pas un moins, c'est que c'est plus. Voilà. Et ça fait toujours 4. Donc c'est pour ça qu'ici, je ne mets pas de plus devant. Mais vous voyez ici aussi, partout, on pourrait mettre plus x. Bon, on n'écrit pas le plus x. Voilà la question de l'enseignement des mathématiques au tout petit et même au grand. Parce que le problème maintenant va devenir la question que me posait aussi bien ma fille que mes élèves quand ils sont petits, qui c'est qui décide, puisqu'on le met, on peut le mettre, on peut ne pas le mettre. Alors vous voyez, c'est à peu près bon. Et donc nous sommes, pourquoi j'insiste là-dessus, parce que nous sommes dans un siècle, ça fait déjà plus d'un siècle que ça dure, nous sommes dans un siècle nouveau, mais ça a commencé dans le siècle précédent. Les sujets ne supportent plus qu'on écrit fatou. Voilà. Et ça, moi, je dis que c'est la psychose. C'est la psychose, c'est pas le grand délire somptuaire, les forcenés qui font enchaîner avec lesquels ils donnent la force. Tout ça, c'est de la psychiatrie. C'est pas les, les, c'est pas les agiter. La psychose, là, ce que Lacan appelle fort-clusion, et le président Schreber, c'est pas un forcené, bon, il s'abarde un petit peu dans son texte, mais c'est quand même un président d'une cour en Allemagne, et il a des déboires, parce qu'il se passe des tas de choses dans son corps, et il s'étonne, parce que sans doute que c'est le langage du corps, c'est une chose justement. C'est ça la psychanalyse, c'est le langage écrit, le langage, le corps écrit, le corps parle, et le corps lit. Il faut voir que ça fait des choses bizarres, ça peut faire des choses bizarres dans le corps, si on ne sait pas lire, si on ne sait pas écrire, si on n'arrive pas à parler, bon. Et la psychanalyse, Freud, c'est ça, la découverte, c'est que, et freudien, quoi que ce soit qui concerne le corps et le fait qu'il y ait quelque chose à lire ou pas. S'il n'y a rien à lire, ça n'intéresse pas Freud. Oui, il le dit même de la télépathie. Là, quand on parle dans les noms du père, il dit les phénomènes parascientifiques, paranormaux, enfin, tout ce qui intéresse un peu les gens qui aiment bien le cirque ou la foi, toutes les merveilles, voyez-vous, il y en a même qui font ça avec l'hypnose et tout ça. L'hypnose, c'est pas Freud, ça l'a pas beaucoup lu. Il a même abandonné, mais il a quand même permis de faire la théorie de l'hypnose. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'hypnose, c'est pas mystérieux, c'est un idéal et un objet du désir. Un objet du désir qui vient sous l'idéal, pof, le sujet, il se trouve en état d'hypnose. Moi, j'ai parlé des patients qui m'est arrivé d'avoir, quand j'ai commencé à partir en Argentine, des gens qui se mettaient en état d'hypnose, ils n'avaient plus de séance pendant un moment, alors il y en a qui ont dit il faut prendre des médicaments parce qu'ils considéraient que la cure c'était un placebo. Hein, alors si on n'a plus la cure comme placebo, il faut prendre des vrais médicaments. Curieux raisonnement. Bon, moi j'ai mis un. Ils ont trouvé des médecins, même des psychanalystes médecins, psychiatres, pour prescrire les médicaments, pour vous dire dans quel obscurantisme nous vivons. Il y a des mecs qui étaient très intéressés par le fait que la dame elle demandait des neuroleptiques. Bon, et puis alors ça s'appelle répondre à la demande, ça. Comme psychanalyste, comme clinicien, il faut être un peu au courant. Bon, et puis alors vous avez même des gens qui se mettent sous hypnose. Vous voyez, j'ai quelqu'un, je connais quelqu'un qui connaissait autrefois un collectionneur qui était quelqu'un de tout à fait idéal et qui a acheté des objets fort chers pour faire un musée chez soi. Et qui s'est retrouvé en état d'hypnose dans son musée. L'idéal est l'objet, vous voyez, pof. Et alors, quelqu'un comme ça qui vient vous dire, ben, je dors plus, je suis insomniaque, je dors plus. Ah bon, et très fatigué, parce que quand on dort plus, le corps, vous savez, quand vous dormez pas, ça fatigue vite. Bon. Donc, vous avez comme ça des vous voyez, l'absence de catégorie logique, l'absence de traits distinctifs, structuraux, l'absence de lecture, ça fait que bon, ben, aujourd'hui, on mixe tout ça. Et Freud, lui, il est très précis, au contraire, comme le fait remarquer Lacan, il écrit, là, il a même, c'était une note que les héritiers de Freud ont fait disparaître de la fin de la trame de tout, de la science des rêves, hein, son premier grand ouvrage, on va dire ça comme ça. Freud avait écrit une note que Lacan a eu un mal fou à retrouver en allemand. C'est Nicole Sells qui lui a trouvé ça finalement. Il en parle dans les non-dupes, dans le séminaire Les non-dupes. Et puis il y a un autre texte de Freud sur la télépathie. Et qu'est-ce que dit Freud? Freud dit une chose qui est très très simple. Il dit bon, écoutez, moi ça, s'il y a quelque chose à lire, bon ben c'est qu'il y a, je vais essayer de lire. Je vais voir si j'apprends à lire, s'il y a quelque chose à lire. S'il y a du désir, je vais lire. Et puis s'il n'y en a pas, s'il n'y a rien à lire, eh ben bon, ça existe peut-être, mais ça c'est un problème qui ne m'intéresse pas, c'est pas de la psychanalyse, vous voyez, j'en ai rien à faire. Bon. Donc Freud, c'est aussi. Alors Lacan, il dit un autre truc. Il ne parle pas de la télépathie, mais il parle de la transmission de pensée. Il dit que si un patient se plaint, hein, auprès de son analyste de transmission de pensée, c'est qu'il y a un autre patient du même analyste qui fait un acting out. Alors là, ça c'est plus amusant déjà. Il faut réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça veut dire, Lacan, il est en train de dire qu'il y a un analysant qui fait un acting out. Qu'est-ce que ça veut dire un acting out? Ça veut dire, il transfère mais il n'y a pas d'analyse. Hein. L'analyse, c'est le transfert. Ça, vous pouvez mettre ça dans votre poche, mais ce n'est pas analyse égale transfert. C'est, pour parler d'analyse, il faut qu'il y ait du transfert. Le transfert est nécessaire pour qu'il y ait analyse. Mais il peut très bien y avoir, justement, transfert sans analyse. C'est pas une égalité. C'est pas une équivalence logique comme ça. Vous voyez ? Une équivalence logique, c'est une double implication. Hein ? L'analyse implique qu'il y ait du transfert, mais quand il y a du transfert, ça n'implique pas qu'il y ait de l'analyse. Analyse, hein, transfert. Voilà. Bon, ça c'est vrai, l'analyse implique qu'il y ait du transfert, mais s'il y a du transfert, il peut y avoir ici rien, zéro. Hein, ça, si ça n'implique, le transfert n'implique pas que ce soit de l'analyse. Bah, d'ailleurs, l'amour, qu'est-ce que c'est? Ça, depuis très longtemps, on sait ce que c'est que l'amour. L'amour, c'est du transfert. Et Freud, lui, justement, contrairement à Lacan, il est plus prudent. Il dit, est-ce que l'amour est toujours un amour de transfert? Je pose la question. Est-ce que l'amour est toujours transférentiel? Et il répond pas. Bon, Lacan, lui, pour lire sa thèse, il a tenté, et il en a lu pas mal, de lire tout ce qu'on avait écrit dans la littérature universelle sur l'amour. À 20 ans, il a décidé de faire ça. C'est amusant comme idée. Il faut se donner des pouvoirs, des trucs comme ça. Il faut lire tous les écrits de Lacan, par exemple. Oui, moi je fais ça tous les 5 ans. Tout ce que j'ai pas lu 5 ans avant, je lis. Je note tout ce que je lis, et puis quand j'arrive au bout de 4 ans et demi, là, pof, je regarde qu'est-ce que j'ai pas lu depuis longtemps, et je lis cela. Pour lire tout dans une période de 5 ans. Pourquoi? Parce que c'est très intéressant de s'apercevoir qu'on est amené à lire des tas de trucs, mais il y a des choses qu'on oublie, il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Lacan, il a voulu lire tout ce qu'il y avait sur l'amour. Et le voilà qui fait sa thèse sur le cas aimé. Hein, une dame qui a une passion pour une actrice, qui va aller attaquer avec le canif. C'est une dame très terroriste, très dangereuse, mais elle se retrouve quand même à l'hôpital parce que ça ne se fait pas. Hein. Bon. Et Lacan va s'occuper d'elle. C'est-à-dire, il va racler les fonds de tiroir. Et lui, Lacan, en matière d'amour, il dit, mais l'amour, c'est toujours l'amour de transfert. Transfert égale amour, amour égale transfert. Donc, c'est, à partir de là, vous voyez bien que vous avez deux solutions. S'il y a transfert, si vous êtes amoureux, amoureux ou amoureuse, si quelqu'un est amoureux, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement se dire, bon, c'est un transfert. Alors, si c'est pas sur une analyse, c'est pas terrible de faire une analyse avec l'objet d'amour. Parce qu'il faut pas emmerder les gens. Si vous êtes amoureux de quelqu'un, si vous allez pas l'emmerder, c'est un emmerdement. Donc, il faut pas emmerder avec ça les amis, la famille, tout ça. C'est le minimum de ne pas être fou, de ne pas s'y croire. Mais par contre.
Il y a un problème.
Comment?
Il y a un truc, c'est que si c'est les fausses.
Comment? Ah non, mais attendez, j'ai pas fini, laissez-moi finir. J'ai pas dit qu'il fallait fallait faire l'analyse obligatoirement. Mais si vous tombez amoureux de quelqu'un, quel qu'il soit, réciproque ou pas réciproque, ça c'est une autre affaire. Vous savez, l'amour, c'est toujours réciproque. C'est toujours réciproque. La haine aussi, d'ailleurs. Alors, comme ça, quand vous aimez quelqu'un, généralement, il vous a la bonne. Si jamais, au contraire, vous avez une bonne haine pour quelqu'un, vous pouvez être sûr que lui aussi. Ça, c'est à peu près garanti. Bon. Le point, il est surtout, c'est pas ça, c'est que les pauvres gens qui ne connaissent rien, tout ça, ils vous parlent de contre-transfert, de transfert contre l'enfer. Non, il faut être précis. S'il y a transfert, il y a amour. S'il y a amour, il y a transfert. Et là, la question décisive, c'est est-ce que j'analyse le transfert, hein, parce que le transfert n'implique pas l'analyse. Là, vous avez une décision à prendre. Ou j'analyse ou j'analyse pas. Hein. Vous voyez, le transfert n'implique pas l'analyse. Je mets une barre sur l'implication. Transfert non implique analyse. C'est d'ailleurs même l'opérateur de l'aliénation. Ça, c'est l'opérateur de l'aliénation. C'est pour ça que l'amour est aliénant. Ça, c'est l'opérateur que j'ai construit de l'aliénation. La bourse ou la vie, vous voyez, la vie n'implique pas que vous ayez une bourse. Mais pour avoir une bourse, il faut être vivant. C'est la même relation. C'est un peu aliénant. Mais vous pouvez vous poser la question, s'il y a transfert, s'il y a amour, vous pouvez choisir d'introduire l'analyse ou non. Bon. C'est moi, regardez, c'est la même chose. Regardez, imaginez un analyste qui tombe amoureux de son patient ou de sa patiente. Ou une analyste. Bon. Après tout, qu'il soit hétéro, homo, tout ça, moi, ça, j'ai pas de préjugés, vous savez. C'est la psychanalyse, elle ne dit pas ce qu'il faut faire, elle dit comment les choses sont, et puis démerdez-vous avec ça. Bon. Alors, vous voyez que si un analyste tombe amoureux d'un patient, il peut décider, ou il va faire un contrôle, il faut qu'il analyse ça, ou bien il arrête l'analyse et puis il dit, il faut vivre. Si vous êtes amoureux de quelqu'un, moi je pense qu'il faut... On peut très bien vivre. Bon, l'amour, mais attention, le transfert, l'amour sans analyse, moi j'appelle ça délire, psychose. Voilà, vous avez le droit d'être psychotique, vous avez le droit de décider d'être psychotique, mais c'est un engagement. C'est-à-dire que c'est à vous de savoir, quand même, il serait quand même temps qu'on se renseigne et qu'on sache que, justement, il faut mieux pas être fou, mais on peut être psychotique sans être fou. Hein, moi j'en ai connu des psychotiques pas fous, et je vous promets que. Ils n'emmerdaient pas, ils se faisaient ni emmerder par les flics, ni par les médecins, les hôpitaux, les services sociaux. Quand on n'est pas fou, on ne va pas chercher les emmerdements. Le fou, c'est celui qui se fait du tort. D'ailleurs, c'est beaucoup plus névrotique. Hein? Lacan dit ça. La névrose, c'est se faire du tort. Vous voyez? C'est même pour ça que c'est très amusant de voir que Lacan a dit « L'analyste ne s'autorise que de lui-même. » Vous voyez, comme quoi... Celui qui est en position d'analyste, il se fait du tort, et même de lui-même. Non, il se fait du tort auto et de lui-même. C'est un hyper névrosé, l'analyste. Hein. Donc, il a intérêt à s'analyser. Bon, mais en tant que fou, en tant que névrosé, en tant que belle âme. Et la psychose, c'est autre chose. La psychose, c'est du transfert de l'amour, mais sans analyse, sans lecture. Bon. Eh ben, moi, je vous indique que moi, quand je suis tombé amoureux, ça m'est arrivé trois fois dans ma vie d'être amoureux de quelqu'un, d'une femme. Quand j'étais plus jeune, j'ai un peu fait chier la famille. Parce que je n'étais pas encore très au courant, je n'avais pas encore lu Lacan, et je n'avais pas fait d'analyse. Alors, bon, ça a été un peu limite, disons. Hein, parce qu'en plus, c'était des protestants, alors ils disaient que le désir s'existe pas, que tout est prosaïque. Vous voyez, la répétition, le désir, ce dont je veux vous parler, ça n'existe pas. Donc, eux, ils pensaient que c'était juste pour faire des enfants, l'amour, le mariage. Tu me plais, tu me plais pas, bon, on peut choisir. Ça. Bon, mais il y a des trucs comme ça, où il y a des gens qui s'appellent érotomanes, qui sont amoureux. Hein, ça fait partie des symptômes paranoïaques.
C'est une pensée délirante.
Comment ?
C'est une pensée délirante.
C'est une pensée délirante, mais je vous dis, l'amour sans analyse, c'est du délire, c'est un acting out. Mais si on n'est pas fou, on peut très bien vivre, on en bat des ronds de chapeau, mais on a des satisfactions extraordinaires. Il faut quand même voir que c'est quelque chose de tragique et d'absolu. Bon, alors au lieu de dire aux jeunes, oh l'amour, c'est terrible, non. Écoutez, je vais vous citer Beckett, Samuel Beckett, dans une phrase de Beckett qui est, à mon avis, définitive pour comme guide dans l'existence, en matière de ce qui peut vous arriver comme sujet. C'est dans une petite pièce de théâtre qui n'a pas de titre, c'est une pièce de théâtre. Il s'agit d'un paralytique et qui est sur une chaise roulante qui vient visiter un joueur de violon qui est aveugle dans la rue. Hein. C'est du personnage charmant, beckettien, quoi. Ils sont absolument défaits. Hein. L'un comme l'autre. L'un, il a sa boîte de violon, son violon, et puis il joue du violon, il est aveugle. Et alors le paralytique lui vient avec une, comme les gondoliers, vous savez, à Venise, il a une grande perche pour pousser sa chaise roulante. Et alors comme il est un peu emmerdé de se déplacer comme ça, il vient proposer un deal à l'aveugle. Il dit, voilà, écoute, je te propose une affaire. Si toi tu pousses ma chaise roulante, moi je vois, donc je te dirige. C'est pas bête. Vous voyez, comme quoi, il faut avoir l'esprit pratique quand on est infirme. Hein. Bon, et alors là-dessus, parce que moi j'ai connu des infirmes qui ne se laissaient pas marcher sur les pieds. Hein, vous savez, ils ne sont pas tous là à demander qu'on les aide, qu'on les plaigne. Hein. Bon, les gens qui demandent qu'on les plaigne, en général, il faut se méfier, ils sont un peu fous. Bon. Et il y a des gens qui sont très fiers même, d'avoir perdu une jambe, je ne sais pas. Alors le problème, c'était comme ça la guerre. Hein, bon. Et les psychologues disent qu'ils jouissent de leurs symptômes. Ben non, Freud n'a jamais dit ça. Il a dit.
c'est sûr qu'ils ne tirent pas quelques avantages de leur infirmité. Hein. Il est faux qu'ils ne tirent pas quelques avantages de leur infirmité. Ça, c'est dans l'avenir d'une illusion. Voilà comment Freud parle des bénéfices secondaires du symptôme. Mais c'est pas du tout de dire ils jouissent dans leurs symptômes, comme disent les psychiatres aujourd'hui, là, qui disent que la jouissance n'est pas bien. Ils ne parlent plus du désir, ils ne parlent que de la jouissance.
Moi, je trouve que c'est un discours de moralisme accablant. Ça produit des petits caporaux, enfin, comme on en a à la tête de l'État, vous voyez. C'est le moralisme qui est comme ça, c'est du pétain. Bon. Là-dessus, vous avez donc l'aveugle, il joue du violon, le paralytique vient le voir. Et alors, à un moment donné, dans la conversation, il y a des phrases, lesquelles c'est tellement joli. Il y en a une, l'aveugle, il demande au paralytique, il lui dit, mais... Et les arbres, il demande. Alors l'autre regarde, il dit, bah, ils bougent. Mais vous savez, j'ai pas l'habitude. Parce qu'il regarde jamais les arbres, lui, il est voyant. L'autre, ça l'intéresse. Et alors il y a un moment où l'aveugle demande au paralytique, il lui dit, mais quand même, vous avez pas été toujours comme ça dans la vie. Hein? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Hein? Le jeu, les femmes, Dieu. Vous voyez, notez-la celle-là, parce que je pense que c'est une phrase formidable. Qu'est-ce qui peut vous arriver de pire? C'est le jeu, les femmes, Dieu. Vous voyez, bon. C'est effectivement des choses comme ça qui peuvent paraître banales, mais qui sont des choses extraordinaires. L'addiction au jeu, bon, l'amour. Et moi, je vous dis que l'amour, c'est extrêmement fort et tragique. Mais que si on est amoureux, si on transfère sur quelqu'un, je vous dis, il ne faut pas emmerder tout le monde avec ça, on n'est pas obligé d'être fou, mais on peut vouloir ne pas lire et vivre cet amour, et c'est ce qu'on fait en général d'ailleurs. Maintenant, Freud, il a rajouté quelque chose, c'est que si jamais ça ne marche pas, bah vous pouvez aller voir un analyste, et puis vous pouvez commencer à apprendre à lire. Voilà. C'est ça la psychanalyse, c'est apprendre à lire pour souffrir un petit peu moins du fait que vous avez une situation qui est terriblement aliénante, voyez-vous, comme la bourse ou la vie, entre l'analyse et le transfert. Et moi, je prétends que la lecture, c'est une décision, et c'est la seule réponse que l'analyse propose, c'est de dire, par exemple, l'anorexie, dans ce lien de répétition qui est absolu, comme dans le transfert, dans la répétition. Le transfert, c'est la répétition. C'est pas la répétition de quelque chose d'ancien, c'est quelque chose qui est une structure de répétition. Hein? Le transfert, c'est ça. Vous voyez? Je l'ai dit dans la première leçon ici, hein, pour ceux qui n'étaient pas là, quand vous avez un bout de papier, si vous tracez un trait sur ce bout de papier, vous avez des points sur ce trait. Vous avez un point là-bas, vous voyez. Si vous prenez des ciseaux et que vous coupez le bout de papier en deux, avec des ciseaux, vous voyez, comme ça, eh bien, vous allez avoir... chaque point va se dédoubler et devenir deux points. Donc, un point devient deux points. Un, c'est une ligne... Deux, c'est deux bords. Quand vous coupez une feuille de papier, une ligne devient deux bords. Et chaque point devient deux points. Que vous pouvez chercher à recoller ensemble. Bon. Eh bien, ça, c'est ces deux points, ils sont distincts. Et les deux éléments de bord sont distincts si vous coupez un bout de papier qui est un morceau de sphère, un morceau de ballon, hein, ou un morceau de tor. Tandis que si vous coupez une bande de Mobius, vous voyez, c'est là l'intérêt de la bande de Mobius dans Lacan. Si je coupe une bande de Mobius, si je prends mes ciseaux et que je coupe la bande de Mobius, comme ça, hop, ici il y a les deux bords qui se séparent de chaque côté de la coupure, vous voyez, ici le bord est là, et puis je fais le deuxième tour, pourquoi? Attendez, je ne me suis pas trompé. Non, je ne me suis pas trompé. Ça, c'est pas visible. Voilà. J'arrive ici au deuxième côté. Voilà. Bon, le problème, c'est qu'il faut compter ce qui se passe en haut. Vous voyez, c'est là qu'on peut se gourer. Bon. Donc vous avez ici, je vais le mettre en bleu pour que vous voyez bien la coupure. La coupure bleue, quand vous coupez une bande de Möbius, contrairement à la coupure qui donne deux bords ici, vous voyez, deux bords distincts, mais ici, si vous avez, si vous coupez autour d'un point, à partir d'un point ici, comme ça, vous avez un point ici, vous voyez, et un autre point là, quand vous coupez en deux, quand vous coupez avec des ciseaux une bande de Möbius, vous voyez, vous définissez un deuxième bord, un bord et un autre bord, comme dans un bout de papier, comme dans n'importe quoi, vous avez ici. Et vous voyez que les deux bords, ils sont en continuité l'un avec l'autre. Et le reste du bord, il est là. Donc, pourquoi la quantique de la répétition, c'est le vide intérieur? À cause de ça. Parce que ça se produit seulement sur la bande de Möbius. Vous voyez? Le bord, il est bleu. Dans une bande de Möbius, vous avez bien deux bords quand vous coupez cette surface, deux composants de bord, mais ces deux composants de bord, il y en a un qui se continue dans l'autre. Et ça crée un lien qu'on va appeler la répétition. C'est le lien qui, dans mes disques, hein, se trouve dans la situation médiante. Vous voyez, ici, déjà. Au lieu d'avoir le bord de la bande de Möbius, ici, c'est la couleur qui indique la répétition. Ici, si je mets la couleur verte, si je ne me trompe pas, je pense que c'est ce côté-là que je l'ai mis à la fin, finalement. Ici, je vois apparaître la couleur verte également. Et si je mets du rouge ici, dans les deux disques, hein, ici je mets du rouge. Et la superposition du rouge et du vert, dans mon curieux chromatisme à moi, c'est ici quelque chose qui est bleu. Voilà. Donc pourquoi c'est comme ça? Pourquoi le rouge apparaît ici et pourquoi le vert apparaît là? Parce que n'oubliez pas qu'on est parti de deux disques qui sont comme ça. Ces deux disques qui sont l'un et l'autre, côte à côte. Hein. Ce qui est au milieu, c'est un trou. Ah non, c'est le contraire. C'est le rouge ici, le rouge là. Oui, je suis obligé. Voilà. Et je me tromperai sans doute ma vie avec ça parce que. Regardez. Donc là, je vais mettre la couleur verte. Et c'est vrai que c'est pas, ça ne se fait pas, mais que la superposition du vert et du rouge dans les dessins, ça donne du bleu. C'est l'intersection. Mais la répétition, ça vient. Voilà. La répétition, ça se produit du fait que l'objet qui est. Il faudra que j'écrive comment l'aliénation. Ça c'est ce que j'appelle un nœud logique. Ça déjà, c'est pas un nœud. C'est un nœud logique. Et ça, c'est un autre nœud logique. Les deux sont des nœuds logiques. Je suis en train d'écrire l'article sur les nœuds logiques. Voilà, ça c'est S et A. Ça c'est grand A et petit A prime. Hein. Et ces deux nœuds logiques, quand ils rentrent en contact et qu'il se crée une intersection entre eux, il y a une partie commune qui est bleue. Hein? Ça, c'est l'étape de alpha, et ça, c'est déjà l'étape que j'ai nommée delta dans mes dessins, ce que je vous ai envoyé. Et vous comprenez le processus que Lacan essaye de nous indiquer avec ces pièces de plastoc, là, de couleur, quand vous voyez que, du fait de ce trou, quand ce trou va être sur cette partie du disque rouge, eh bien le trou, on verra la couleur rouge au travers du trou. C'est ce qui se passe ici. Et là, quand ce trou sera au-dessus de la couleur verte, on verra la couleur verte dans le manque de S. Vous voyez ? Donc ça, ici, vous voyez comment va se dessiner la structure du fantasme. Vous avez S, le disque S, comme ça, ce qui reste de S qui est là. Hein. Et ici, dans A', A' est devenu rouge. Ça va former S barré. C'est la division du sujet. Qu'est-ce que c'est la division du sujet? C'est le sujet qui retrouve ce qu'il a perdu dans l'aliénation. Ça, il reste, ce que je vous montre bien ça, pour constituer une logique. Et ce qu'il a perdu, eh bien, il le retrouve dans l'autre, dans le monde de l'autre. Le désir, l'objet du désir, c'est le désir de l'autre, voyez-vous. Et l'autre, il y a un bout de l'autre qui réapparaît dans le monde du sujet. Donc voilà, le A, c'est ça. Et vous voyez bien que c'est A qui vient s'intercaler, dit Lacan, entre les deux parties de S barré. A, c'est quelque chose qui vient couper S barré. Et vous voyez que A, grand A et petit A, eux-mêmes sont divisés par l'objet du désir du sujet, qui est A prime. Bien, ce lien qui est rendu dans ce petit modèle à la noix, hein, c'est juste pour vous suggérer quelque chose. C'est pour vous suggérer quoi? De commencer à calculer avec ça, de comment est-ce qu'on va faire des calculs pour apprendre la logique de ce qui se passe là. Ben, ça commence dès le trauma. Le trauma pour l'enfant, le malentendu des parents, quand il entend les parents qui parlent, et puis même qui crient, et qui ne se rendent pas compte qu'ils parlent, qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils crient, qu'ils sont sujets de l'énonciation, et que le sujet de l'énonciation, il est toujours... L'énonciation, c'est comme une savonnette, on ne peut pas l'attraper.